cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard le 30 mars 95.
Tiesti de l'être en acte éclair. Tout existence. Qu'est-ce qu'il y a de plus quand je dis mon âme existe? Mais cette fameuse querelle que je vous avais dit, que j'avais avec Fribourg, qu'un Fribourg avait fait avec un professeur qui est uniquement dans la phénoménologie et qui affirmait tout le temps que ceci et ceci est, ça a la même signification. Mais l'âme, et l'âme existe. Qu'ajoute l'être en acte à la signification quotidative. Prenez ça comme ça, si vous voulez. Parce que c'est ça, la signification quotidative, c'est la manière dont nous connaissons toutes choses, la manière dont nous appréhendons tout. L'appréhension, elle est toujours selon un mode quotidatif. Il faut dépasser ce mode quotidatif pour voir le réalisme de l'intelligence. Autrement, je reste dans mes idées. Je reste dans ma manière de connaître, penser l'être. Et je ne peux pas regarder l'être sans penser l'être. C'est très juste. Il faut penser l'être pour le regarder. Mais je peux insister sur la manière dont je le connais et ce que je connais. Le quo et le quad, hein, dans le langage de saint Thomas. Ce par quoi je connais et le quoi de ce que je connais. Ce qui est atteint, c'est l'être en acte. L'être en acte se réalise en premier lieu au niveau métaphysique dans l'essai. Au niveau esprit, l'être en acte, c'est la vérité. Vérité est le vrai ontologique. Oui, il y a déjà une dualité, donc il y a déjà une espèce de jeu entre entelekeia et energeia. C'est vrai, je ne peux pas comprendre la distinction vraie ontologique et vraie formelle sans entelekeia et energeia. Ce que Heidegger n'a pas compris. Heidegger a buté sur la vérité. C'est pour ça qu'il dit que, à partir de Platon, dans le mythe de la caverne, l'Orient, devant l'Occident, a opté pour la distinction du vrai ontologique et du vrai formel. Aristote, il n'accepte pas. Mais il revient à Parménide, comme si Parménide avait mieux saisi l'être qu'Aristote. Très curieux. Donc il n'a pas saisi. Lorsqu'il s'agit du bien, c'est la même chose. Il y a le bien et l'amour. Entelekeia, energeia. Vous voyez, au fond, il n'y a qu'au niveau métaphysique de la substance que l'être en acte est energeia. Et même là, quand je dis l'essai de la substance qui subsiste, j'ai entelekeia. C'est sûr. Mais un point de vue tout à fait plénier. Oui, c'est pour ça que mon intelligence pour saisir l'être en acte, étant donné le mode particulier de mon intelligence qui saisit toujours par l'appréhension et le jugement, est obligée tout le temps de saisir cette relation mais en la dépassant. C'est la pince. Qu'est-ce que je saisis? L'être en acte. Et il y a toujours ces deux aspects. Et c'est ça qui est très difficile, mais c'est ça l'analogie. Hein. Quand il s'agit des opérations vitales, les opérations vitales, l'entelekeia apparaît en premier lieu. Mais cependant, ce qu'il y a de propre à l'opération vitale, vue du côté de l'être en acte, c'est pas l'entelekeia, c'est l'acte dans l'entelekeia. Alors, ce que vous avez dit, c'est l'immanence, c'est sûr. Quand il s'agit du point de vue du mouvement, c'est l'acte dans la puissance. Oui, c'est ça qui est très curieux dans le mouvement. tout ce problème métaphysique. La matière existe, et cependant, il n'y a pas de cause propre matérielle de l'être. Ça paraît, à première vue, contradictoire. Alors, ce qui explique les deux positions, le matérialisme et l'idéalisme, qui n'acceptent pas que l'acte soit victorieux de la matière, mais dans la matière. Mais le matérialisme, prenez Lénine, et Lénine, c'est nettement ça. Et d'une certaine manière, dans l'Antiquité, le matérialisme, un peu, pas entièrement, parce que Héraclite n'est pas un matérialiste, mais on pourrait dire le primat du devenir.
Anéantir
la position heideggerienne qui néantit les états. dernière apparition de l'aide en devenir. Il est. Votre réalisme vous oblige de reconnaître que le devenir existe. Votre réalisme exige de comprendre que le comportement existe. Que la cause matérielle existe. Vous ne pouvez pas nier que la cause matérielle existe. Mais cette cause matérielle, elle est tellement puissante qu'elle fait que l'être ne peut exister dans la matière que d'une manière éphémère. Mais comme ces moustiques qui vivent très peu de temps, c'est éphémère. C'est vrai. Tout, voyez, toute l'attitude platonicienne, le devenir, c'est l'apparence. C'est pas l'apparence, c'est éphémère. C'est pas la même chose. Mais ça existe. Je peux pas dire que le comportement, le devenir est uniquement apparence. Il est. Mais je comprends très bien que l'exister dans la cause matérielle est tellement englouti dans la cause matérielle que si je n'ai pas un regard extrêmement perspicace, je dirais le devenir, c'est beaucoup plus simple, il n'existe pas. Alors je tomberai dans l'idéalisme. C'est ça qui est intéressant. C'est quand vous regardez le devenir dans la lumière de l'être, dans la lumière de l'être en acte, vous voyez les deux positions possibles. Ou le matérialisme, ou l'idéalisme. Et que l'une et l'autre oublient la distinction de l'entelekeia et l'ergeia. Le matérialisme est saisi par le poids de la matière. L'idéalisme, la matière est insupportable pour un idéaliste. Le comportement est insupportable pour un idéaliste. Alors on le supprime. Alors il faut respecter qu'il existe. La cause matérielle existe. J'ai un corps. C'est terrible. C'est pas drôle du tout. Tous les jours, de dormir tous les jours, perte de temps, radical, c'est idiot de dormir. Et si vous dites c'est idiot de dormir et que vous faites ça dans la pratique, vous verrez la vengeance de la matière. Et la matière se rattrape. J'existe, dit le corps, à l'âme spirituelle. J'existe, tiens compte de moi, autrement tu verras. Je vais t'engouffrer. Et cette image extraordinaire dans Hésiode, c'est que la matière, elle se venge. Elle se venge et elle veut engloutir. Elle ne veut pas que l'être apparaisse. C'est ça la rage si terrible des matérialistes. Les matérialistes ne peuvent pas supporter le réalisme qui montre que la matière existe, mais elle n'est pas une cause propre de l'être. Parce qu'elle est cause du devenir. C'est à cause de la matière que le devenir existe. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que va apporter comme vision particulière le devenir par rapport à l'être en acte ? Pour montrer d'une part que l'être est victorieux du devenir, puisqu'il est présent dans le devenir, et que le devenir n'existe que par l'être en acte. Mais d'autre part, c'est pour montrer aussi la puissance de la cause matérielle. On peut dire, voyez, que le bien attire, le beau séduit, et la cause matérielle donne le vertige. C'est le vertige. Quand vous montez, puis vous regardez l'abîme, et l'abîme attire. alors que la cause matérielle, que l'attraction du bien tire vers le haut. Alors il y a une espèce de poids, alors on dira le poids de la matière. Oui, le poids de la matière, quand on parle de la Terre tombe au centre. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Au plan philosophique, qu'est-ce que ça représente? Le vertige, l'attraction de la cause matérielle. Eh bien, l'attraction de la cause matérielle ne peut exister que si l'être en acte existe. La cause matérielle par elle-même n'existe pas. Elle est non pas du non-être, mais elle est l'imperfection radicale de l'être. Elle est le conditionnement substantiel de l'être. Elle est la limite radicale et substantielle de l'être. C'est ça la cause matérielle. Alors c'est quand même très important de voir comment l'être en acte est victorieux juste dans la cause matérielle. C'est ça le devenir. C'est la victoire de l'être sur la matière. Une victoire éphémère. C'est pas une conquête. C'est une victoire éphémère. C'est ça, c'est... C'était la... Vous voyez, la hantise d'Aristote par rapport au corps céleste. Pour faire que au moins il y ait une matière qui soit entièrement possédée par l'être. Toute cette matière céleste qui n'implique pas de la corruptibilité. Alors que la matière apporte la corruptibilité. Qu'est-ce que c'est que la corruptibilité? C'est le vertige. À un moment donné, vous laissez tomber les bras. C'est ça, pas la peine. Alors, il faut pardonner 70 fois ces fois. Je pardonne une fois, je pardonne deux fois, trois fois, c'est imbécile, il comprend rien. C'est fini, pas la peine, je le laisse aller filer. Mais, alors là, c'est la cause matérielle, la fuite. La fuite. C'est la traque, c'est le vertige. Je vais dire ça, parce que c'est l'anti-attraction, si vous voulez. Exprime le devenir hein, dans la lumière de l'être en acte. Là, il y a quelque chose que je ne veux pas nier. C'est... Et là, vous voyez, Entelekeia est dans Energeia. Energeia est dans Entelekeia. Je distingue. Je distingue parce que je l'ai distingué. Je suis parfaitement loin et je vois que là, il y a la distinction dans la réalité. Le mouvement unifie Entelekeia et Energeia. Mais par le bas, pas par le haut. Par le haut, ce sera Dieu. Et c'est dans ce sens-là que la cause matérielle dit quelque chose de Dieu, négativement. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Il y a deux cas où Energeia et Entelekeia, je les distingue, mais ils sont un. L'ipsum esse subsistens. Voilà les deux extrêmes de ma connaissance philosophique. Parce que c'est pure puissance. l'ignorance. C'est pour ça que c'est le conditionnement substantiel. C'est contradictoire. Le conditionnement est toujours accidentel. Mais pour la matière, pure puissance, le conditionnement est substantiel. Et c'est pour ça que je peux dire qu'il n'y a pas de cause propre de la matière. Il n'y a pas de cause propre matérielle de ce qui est en tant qu'il est. Et cependant, la matière existe. Parce qu'elle existe dans le devenir. Et le devenir est, voyez, le devenir est la négation de la substance. La substance ne devient pas, elle est. Dans le devenir, il y a une certaine négation de l'être. Mais pas de l'être tout court, mais de l'être substantiel. Il n'y a pas d'être substantiel dans le devenir. Donc, c'est la relativité absolue. La pure puissance, c'est la source de la relativité absolue. Tout est relatif dans la cause matérielle. Tout est relatif. Mais si tout est relatif, rien n'est substantiel. Si tout est relatif, l'être en acte substantiel se dilue par la force du vertige de la cause matérielle. Alors, tout est relatif, pure puissance. Puisque c'est pure puissance, l'intellegeia, c'est par l'intellegeia, c'est dans l'intellegeia que je vois l'energeia. Il n'y a pas d'energeia. L'anti-simplicité, si j'ose dire. La matière est toujours cause de complexité, puisque c'est le comportement substantiel. Je ne peux pas être simple à cause de mon corps. C'est ça qui est terrible. Mais dans l'amour d'amitié, on voudrait être d'une limpidité complète pour son ami. Et on ne l'est pas. Et on ne peut pas l'être à cause du corps, à cause de la matière. Il y a quelque chose, une opacité, une apparence qui est anti-lucidité, anti-simplicité, qui met comme un voile. Et c'est le voile qui domine. Alors quand on dit que Dieu est un Dieu caché, il y a comme un vestige du Dieu caché par la matière. Mais d'autre part, je dois reconnaître que la cause matérielle me dit quelque chose de Dieu. Ce vestige ultime et dernier. Et c'est pour ça que je dois regarder l'être en acte dans la cause matérielle. Ah. humain qui présuppose la matière pour réaliser quelque chose. Dieu crée l'être. Et en créant l'être en acte, l'essai, subsistance, il crée des êtres qui sont conditionnés radicalement par la matière. C'est pour ça que la matière est concrète. C'est une drôle d'invention de la part de Dieu d'avoir créé la matière. C'est extraordinaire. C'est un être purement spirituel. Un être. Ce qui fait bien comprendre que Dieu est au-dessus de la distinction esprit-matière. La distinction esprit-matière est philosophique. Dès que je suis en sagesse théologique, Dieu est. Et l'être va jusqu'à conquérir la matière. Et tu as voulu créer la matière. Pourquoi? Pourquoi a-t-il voulu créer la matière? Alors que, à première vue, ça a l'air anti-être. C'est pas anti-être, c'est une pause. Mais très facilement, on dira que c'est anti-être. C'est pour ça que Platon, le père de tous les idéalistes, dit la matière, c'est du non-être. C'est pas anti, c'est du non-être. On se débarrasse de la matière. Et le corps s'en débarrasse. Vite, 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 guenille qui dégringole. Et ça, c'est la tentation permanente. C'est très difficile de maintenir comment. la causalité formelle. Et la causalité formelle est toujours double. Extérieure et immanente. La causalité efficiente et la causalité matérielle. Et si vous êtes attentif, vous voyez que toutes les modalités de l'être en acte se rattachent aux divers aspects de la causalité. Vu toujours dans la perspective de la fin de l'être en acte. L'être en acte éclaire la finalité finale, éclaire la causalité formelle, les deux, éclaire la causalité efficiente, éclaire la causalité matérielle. C'est une autre manière, vous voyez, au point de vue critique, de justifier cette recherche de diverses modalités de l'acte. Pas dans le monde physique. pierre, plan puissance. Arthur qui la connaît parfaitement. C'est la limite de mon intelligence. Alors quand on est orgueilleux, la limite c'est très ennuyeux, puis ça me remet en place. Alors je la supprime. Je fais un bond dessus, ça y est. C'est ça qui me fait comprendre comment l'idéaliser est quand même une forme d'orgueil de l'intelligence. Dans le réalisme, je considère que la réalité est toujours avant moi. Et je dois me soumettre à cette réalité. Dans ce monde physique, où je saisis la nature, je regarde tout de suite quels sont les éléments, c'est-à-dire comment se trouve réalisé le monde physique. Yeah. on les utilise poétiquement. Aujourd'hui, c'est la manière très très élégante de ne refuser et en même temps de ne pas être naïf, de ne pas paraître naïf. Parce que si je dis les éléments d'Aristote, oui, ça n'a pas bougé. Qu'est-ce que c'est que l'eau ? On vous donnerait la formule chimique, mais ça n'explique rien du tout. Qu'est-ce que c'est que l'eau ? Qu'est-ce que c'est que la Terre ? Qu'est-ce que c'est que cette attraction de la Terre ? Le grave qui tombe, le feu qui monte. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Le feu qui illumine. Et toute la liturgie chrétienne repose sur le nouveau feu. Elle repose, oui. Symboliquement, on maintient le symbolisme du feu à Pâques. Et c'est merveilleux du reste. Les scouts là sont les premiers à faire un feu, le feu le plus beau qui soit. Chaque année on essaie de faire un feu le plus beau. Et quand il fait beau, il y a un clair de lune étonnant. C'est magnifique. C'est une liturgie extrêmement simple, radicale, élémentaire. Thank you. promettez qu'il joue encore. Marx, je ne peux pas comprendre Marx, je ne vois pas sa thèse sur le mythe de Prométhée. C'est ça qui était la source de tout le reste. Le mythe de Prométhée, voyez bien, c'est le... On a volé le feu aux dieux. Et en volant le feu, on a pu avoir l'art. Et donc le travail. Et donc le travail, c'est l'homme qui a volé ça aux dieux. Vous voyez, l'esclave par rapport au patron. On a volé aux dieux le feu pour le travail. Tout le travail, la praxis, devient l'élément par où l'homme est victorieux de Dieu. Et la grande victoire, c'est la praxis. Donc toute la philosophie de la praxis repose là-dessus. La révolte de l'homme contre Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Il y a un mythe qui fonde le marxisme. Un mythe radical et qui n'est qu'un mythe. Mais un mythe très puissant. Le mythe de la révolte. Prométhée. Et le mythe de la révolte, c'est l'homme qui conquiert le feu. Si l'homme n'avait pas conquis le feu, l'homme ne pourrait pas être un artiste. Il n'irait pas le travail, il n'irait pas la domination sur la terre. Et ça, c'est intéressant de reprendre ça, parce qu'autrement, vous pouvez montrer les erreurs du marxisme, les confusions, c'est évident, l'idéologie. Mais il y a quelque chose de plus profond. C'est le mythe de Prométhée. Et ça exprime quelque chose de très humain, le mythe de Prométhée. Parce que ça montre que le feu, l'homme ne le possède pas. J'ai toujours rappelé cette histoire de ce novice dominicain russe. On lui demandait, quand il était avant d'entrer, il était routier, il était en retard. Alors on lui confie, puisqu'il était toujours premier dans le feu, dans les concours sur le feu. Alors on lui dit, ce soir, puisqu'on est en retard, un feu numéro un. Puis on désigne à chacun sa fonction. Au bout d'une demi-heure, on revient. Alors le feu numéro un. Alors on voit mon brave avec deux silex. Vous avez dit un feu numéro un, il faut le prendre à la source.